Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Alexandre, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast, je suis ravie. J'ai écouté pas mal de choses, enfin des interventions de ta part dans différents médias. Honnêtement, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai été assez impressionnée par ton franc-parler, notamment sur les levées de fonds. J'ai retenu, donc on va en reparler plus tard. Mais sans plus tarder, donc tu es le fondateur, cofondateur de Clini. Tu vas nous dire ce que c'est. Mais sans plus tarder, est-ce que je peux te demander, Alexandre, de te présenter, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire?
Merci de me recevoir. Donc Alexandre Belliti, je viens d'avoir 37 ans, je suis papa d'une petite fille de 3 ans, je suis marié et j'ai fondé Clini il y a un peu plus de 11 ans maintenant. Entreprise de propreté, donc sur un marché propreté B2B, donc nettoyage de bureaux et tout ce qui est nettoyage en entreprise en général. On est 450 collaborateurs maintenant. Un peu plus de 200 en équivalent temps plein, puisqu'on a beaucoup de temps partiel, pour y revenir éventuellement. Le marché fait 17 milliards en France. Il est à la fois énorme et adressé d'une manière qui n'a pas tellement évolué depuis 50 ans, et notamment sur le plan social. Et il s'avère que pour la petite histoire, moi, j'ai un oncle qui a une boîte de propreté et j'ai une grand-mère qui était femme de ménage. Et du coup, l'enjeu social de ce secteur me paraît fondamental. C'est la corporation la plus précaire et une des corporations qui emploie le plus de personnes en France. Et je pense qu'on peut extrapoler à l'échelle du monde. Donc, c'est un enjeu social qui est colossal, mais méconnu. Et donc, on essaie de le tacler avec beaucoup de volonté.
Alors, donc il y a 11 ans, de ce que j'ai cru comprendre, tu avais une expérience chez ton oncle, n'est-ce pas?
Exactement.
Qui lui avait une entreprise dans la propreté. Pour différentes raisons, on va dire que tu as préféré créer ton entreprise, ou en tout cas, tu n'as pas pu faire autrement que de créer une entreprise plutôt que de reprendre celle de ton oncle. Donc, tu as décidé de créer from scratch, comme on dit. Pourquoi, en fait, avec quelle énergie, quel était dans ton parcours? Donc, tu viens de le dire assez rapidement, mais effectivement, tu avais une grand-mère, mais moi aussi, hein, j'avais une grand-mère qui faisait des ménages, mais au final, j'ai pas monté une entreprise dans les ménages. Mais pourquoi? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui, dans ton parcours, j'ai retenu quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ton père t'a coupé les vivres à un moment, donc moi, il faut peut-être le remercier au passage. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez limpide comme parcours. Enfin, quand j'ai écouté ton parcours, je me suis dit, c'est logique et en même temps pas logique, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors pourquoi le ménage? Le sujet de ma grand-mère, il tient plus du fait de l'engagement social de la boîte, c'est-à-dire que pour moi, il était engrammé dès le départ que traiter les gens correctement, c'était une base. J'ai découvert au fur et à mesure que c'était pas l'archétype du secteur, qui était plutôt, je grossis le trait évidemment, mais d'invisibiliser et de faire de l'EBITDA sur d'autres personnes qui savent pas se défendre, et ça m'emmerde.
Et c'est particulier à la France ou pas?
Alors, c'est difficile à dire, j'ai pas d'études sociologiques définies. Moi, c'est vraiment du constat, quoi. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu voir du secteur en rencontrant pas mal de boîtes. Il y a des gens qui font les choses très bien, donc évidemment, je suis assez schématique dans mes raisonnements parce que c'est la bonne manière de le pitcher, je pense. Mais de ce que j'en ai vu, l'enjeu social est colossal, pas très bien adressé, on va le dire comme ça. Et pour moi, c'était fondamental de bien faire les choses. Pourquoi je suis venu au nettoyage? Le cheminement, il est un peu bête et méchant, on va dire. Je sortais d'école, je venais de faire 6 mois de stage chez Air Liquide en contrôle de G. Je m'étais vraiment royalement fait chier, même si la boîte est magnifique. Et puis toute ma famille est entrepreneur, donc je me suis jamais trop posé la question. Je voulais monter une boîte. J'ai commencé à explorer le sujet. Les boîtes tech, certains entrepreneurs que je connais me tiraient la tronche, mais les boîtes tech commençaient à être connues en France. En tout cas, il n'y avait pas l'écosystème startup tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est le point d'inflexion, est plutôt aux alentours de 2015-2016, donc relativement récent. et ça me faisait flipper. Donc j'avais envie, j'étais très attiré à l'idée de monter une boîte techno, très peur de monter, enfin d'être en tout cas tributaire d'un gars qui fait des choses que je ne maîtrise pas et que je ne contrôle pas. Finalement, j'ai des potes qui montaient des super boîtes tech et sans être tech eux-mêmes, mais voilà, moi ça m'effrayait à l'époque. Et en parallèle à ça, j'ai toute ma famille qui bosse dans l'immobilier et un oncle qui
dans les syndics, c'est
gagnait
ça
bien. Ouais, mon père était syndic, mon grand-père était promoteur. J'ai une maman qui est infirmière, qui était infirmière à domicile. J'ai une grand-mère qui était femme de ménage, mais globalement beaucoup de personnes qui ont monté leur boîte autour de moi. Et un oncle, petit frère de mon père, duquel j'ai toujours été proche, qui a lui une boîte de propreté. Et le côté pragmatique, c'est que je l'ai toujours vu rouler en Porsche et il est quasiment pro de golf. Donc je me suis dit, c'est un mode de vie qui me convenait bien. Et donc je suis allé voir un peu plus près. Très gentiment, il m'a dit, bah, tu veux venir voir, viens voir. Donc il m'a pris comme agent d'entretien. Puis finalement, évidemment, il m'a donné accès à toute la boîte dans sa gestion. Moi, je sortais de l'école de commerce, donc j'avais deux, trois trucs à potentiellement, en tout cas, deux, trois idées à potentiellement apporter. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé que le métier était top. Et puis le storytelling perso fait que, en fait, je me suis rapidement dit, bah, tiens, si ça te dit, moi, je peux venir avec toi, apporter de la fraîcheur, de la jeunesse, une force de travail. Et puis finalement, il m'a gentiment dit que son rythme lui convenait. Et du coup, j'ai monté Imonet à l'époque. Lui, il s'appelait Masternet. Imonet. Donc, un génie du marketing. Et donc, j'ai monté Imonet avec son aval. Et puis, ouais, il m'a formé pendant 6 mois.
Oui, mais le service, ça peut effrayer tout autant que la tech, n'est-ce pas? Surtout en France.
Bah, vu que j'avais ce référentiel-là et que j'ai vu qu'il avait réussi à bien faire tourner sa boutique et qu'il m'a gentiment mis le pied à l'étrier, j'avais un peu démystifié le truc, tu vois. Effectivement, d'accord. Le service aujourd'hui,
Parce que là, on est vraiment dans une période où tout le monde se dit que c'est un secteur qui est quand même assez complexe.
Je te confirme, ça effraie. Ça effraie les fonds, ça effraie pas mal de monde. Le people effraie en général, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une tendance à la misanthropie qui est assez. Donc, c'est pas facile à gérer, mais en même temps, moi, c'est là où je trouve toute la valeur. Je trouve que, enfin, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de vivre avec des gens et de bosser avec des gens et d'essayer d'avoir un impact sur les gens et pas sur autre chose.
Donc, c'est ça qui fait aussi un facteur assez différenciant, même si je connais pas bien ton secteur, mais en tout cas, tu as misé sur les people, c'est-à-dire sur les gens qui travaillent avec toi, tu as misé sur des CDI, donc les 450 personnes dont tu me parles, plus les temps partiels dont tu vas nous reparler. Mais en l'occurrence, c'est des gens que tu as en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que c'est des employés de ton entreprise, de Clinique.
Exactement.
Sur lesquels tu, entre guillemets, tu capitalises, j'aime pas ce terme, mais c'est le cas au sens où tu les enrichis aussi par de la formation, enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi des perspectives d'évolution au sein de ton entreprise à ce niveau-là.
Yes.
Pourquoi j'ai compris que c'était une vocation sociale, mais c'est quand même assez osé, entre guillemets, de se dire, bah, je vais passer par cette étape-là, parce que est-ce que ça se passait comme ça chez des concurrents quand t'as créé Cligny? Est-ce que c'était déjà des modèles qui existaient ou pas du tout?
C'est pas ce que j'ai constaté. Au départ, j'ai souvent remarqué que le secteur était composé de personnes qui travaillaient à des horaires qui n'étaient pas les horaires bureaux classiques.
Ouais.
Donc il y avait que ce soit conscientisé ou pas, mais une forme d'invisibilisation organisée et que les gens étaient plutôt interchangeables. Il n'y avait pas d'amour du maillot, pas d'engagement collaborateur, pas de volonté non plus d'engager côté patronat parce que c'était pas du tout le mindset. Donc l'idée, c'était plutôt dans une gestion assez mécanisée de gestion des cadences, de s'assurer que les personnes sont au bon endroit au moment. C'était vraiment le taylorisme appliqué à la propreté. Pourquoi moi j'ai voulu aller dans ce sens-là? Parce qu'à un moment, tu te poses la question de savoir pourquoi tu te lèves le matin et comment tu as envie de faire les choses. Et c'est plus un sujet de valeur et de vision du monde, en tout cas, et de savoir à quel point tu as envie de faire de la croissance et de l'EBITDA au détriment de la qualité de vie des personnes que tu emploies et qui, effectivement, apportent toute la valeur à la boîte. Donc, effectivement, le sujet de ma grand-mère polarise pas mal de choses. Parce que, je te dis, j'ai une vision du monde où, vu que je vois un peu ma grand-mère dans chacune des personnes qui bossent sur le terrain, je me dis c'est impossible de leur tordre le bras pour moi gagner ma vie, tu vois.
Ça t'a aidé à ouvrir des portes, ça, cette vision-là?
C'est difficile à dire, je pense, oui. Enfin, oui, c'est même pas difficile. Non, c'est clair que ça nous a aidé, que de plus en plus aujourd'hui, on ne s'entoure que, en tout cas, on essaie de s'entourer que de clients qui portent ces valeurs-là. On se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'attrition, que l'engagement collaborateur vis-à-vis des clients qui partagent nos valeurs, l'engagement de ces clients à notre endroit est vraiment optimisé, beaucoup plus fort quand on arrive à ne pas. Après, t'es toujours coincé entre ta volonté, en tout cas moi, ma volonté entrepreneuriale de grossir, de faire de la croissance, d'être un entrepreneur comme je l'ai toujours conçu, c'est un entrepreneur de croissance et de prise de risque, versus la contrainte qu'imposent les valeurs, c'est-à-dire bah, fatalement quand tu ne t'entoures que de gens qui portent ce type de valeurs humaines, tu t'amputes d'une partie du marché, partie non négligeable.
Avant de revenir à toi en tant qu'entrepreneur, je voudrais juste que tu nous rappelles un peu les grandes lignes, si tu veux, de la carte d'identité en fait de Clini. Tu vois, on rappelle donc 250 personnes, mais je te demande pas de nous donner ton chiffre d'affaires, mais au moins à peu près, tu vois, et puis de savoir aussi pour qui tu travailles en fait concrètement. Donc je suppose des bureaux, puisque la partie ouais. B2C, t'as, je crois, tenté, mais tu l'as même pas faite en fait. Donc bureaux, hôtels, espaces de coworking, non, je sais pas.
Ouais, on a un peu de tout ça. On a principalement des espaces tertiaires qui sont des sièges de boîtes. Alors, historiquement, plutôt start-up, donc des boîtes qui ont entre 50 et 100 collaborateurs. Ces start-up-là, certaines ont fait de l'hyper-croissance. Donc maintenant, on a des boîtes qui sont plus vraiment des start-up. Enfin, tu vois, toutes les boîtes du Next40 et autres qui sont entre 300 et 1000 collaborateurs, qui sont des très grosses boîtes, des très belles boîtes, donc qui nous font toujours confiance. Et on a, depuis 2018, une politique d'accès aux grands comptes. Avec des boîtes qui nous font confiance, qui là sont des entreprises éprouvées, qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est le gros de notre secteur. On a un hôtel aujourd'hui, un gros hôtel, mais un hôtel. Et on a effectivement quelques espaces de coworking qui ne sont pas les clients les plus faciles, mais parce que très exigeants, parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a des utilisateurs qui sont... mais voilà, on couvre essentiellement du tertiaire, enfin, des espaces où les gens travaillent avec un hôtel qui est... qui a une manière d'opérer un peu différente aussi.
Un truc assez incroyable aussi, c'est que, donc, je suis désolée de te faire répéter, mais en même temps, c'est suffisamment notable pour le faire, c'est les horaires, en fait. Moi-même, ayant fait une précédente carrière dans des grands groupes, les gens du ménage, on les appelait comme ça, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, ben, on les voyait pas. Ou on les voyait partir quand vraiment on arrivait tôt au bureau, idem dans les cabinets d'avocats, bon. Toi, tu décides maintenant de faire en sorte que ces personnes aient une vie et n'aient pas à se lever à 4h du matin pour être à 6h au bureau, pour nettoyer de 6 à 8 et de partir ensuite une fois que les salariés arrivent. Comment tu fais ? Parce que pour moi, un bureau, il doit être propre quand les gens arrivent, non ?
Alors, c'est une excellente question. Le travail en journée, légalement, c'est entre 6h et 21h. Et on essaie de faire la promotion de ce que nous, on appelle le travail de jour chez Clini. C'est du 8h à 18h.
D'accord.
Ça a beaucoup d'avantages sur le plan statistique en termes d'engagement des personnes, le fait tu vois, que toi tu connaisses les personnes qui viennent nettoyer ton bureau, du coup ça crée un lien social, du coup ça crée plus d'engagement de leur part, toi tu sais qui est la personne qui vient nettoyer ton bureau, donc t'as tendance à, quand tu fais tomber un truc, peut-être à faire un peu gaffe. Et de la même manière, la personne sait pour qui elle bosse, donc si elle s'entend bien avec toi, l'engagement est supérieur en termes de sécurité, en termes de pilotage des heures aussi, tu vois les gens bosser, donc tu sais qu'ils sont là, tu vois, il y a plus cette suspicion de « Ah, il n'a pas fait ses heures ». Donc tout est positif, sauf qu'il y a toujours la chimère de l'aspirateur, c'est « Ah oui, mais si je suis en call et on s'organise pour éviter cet écueil-là, parce que si tu vois les gens qui arrivent avant 9h au bureau, c'est quand même relativement rare.
Maintenant, oui.
Maintenant.
Enfin, il y a 10 ans, c'était peut-être pas le cas.
Non, mais c'est clair, mais bon. Tu peux décaler un petit peu, tu vois, mais bon, tu passes entre 7 et 9, mettons ton aspirateur, tant qu'il n'y a pas grand monde. Et puis ensuite, tu travailles en journée, mais tu vois, dans les aéroports, dans les malls, maintenant c'est monnaie courante,
exactement.
Donc ça ne choque personne, au bureau, c'est valable aussi. Et puis, comme je disais, ça a plein de valeurs en termes d'engagement salarié, de confiance partenaire-client. Donc c'est très positif, mais ça reste encore très difficile à vendre. Donc on en fait la promotion. On a aujourd'hui 40% de nos contrats qui sont sous ce format-là du 8h à 18h. Mais ce qui veut dire qu'on a 60% de 6-9. On n'a pas de travail de nuit chez Clini. Mais on a encore du mal à vendre le travail en journée tel qu'on le conçoit. Parce que tu payes une dette de 50 ans d'histoire. Au moment où on arrive au bureau, on veut que les personnes de la propreté soient parties.
T'as une norme, j'ai envie de dire une sorte de ISO 9001 ou ce genre de truc, ça existe ou pas pour des sociétés comme toi ?
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire qu'en gros, je suppose que tu formes les personnes que tu embauches. Ils ont des comment ça se passe en fait concrètement ? Parce que demain, moi, je postule chez toi, j'y connais rien en ménage, je fais comment ? Je suis formé par toi, par l'entreprise, je suppose des stades d'évolution.
Ouais, alors du coup, on a ce qu'on appelle la Clinique Academy en interne, qui est un centre de formation qu'on veut diplômant à terme, mais qui ne l'est pas encore. En tout cas, on a un accompagnement, effectivement. On t'accompagne à faire le métier comme on l'entend chez Clinis. Il y aura nos standards de qualité. Et évidemment, il y a aussi un niveau d'accompagnement et d'encadrement qui te permettent de monter en compétence au fil de l'eau. Sur le choix de la labellisation, alors oui, il existe des ISO. Enfin, tu vois, il y a tout un panel d'ISO dont je n'ai pas exactement le détail. Nous, le choix qu'on a fait, c'est celui de Bicorp. Ça fait 3 ans et quelques qu'on est dessus. C'est très long.
Mais c'est pas la même chose. Bicorp, c'est plus sur l'impact, mais là, ISO, c'était plus au sens, on vous garantit que ce sera ultra clean, que ce sera nettoyé selon telle norme avec des produits issus de. Alors peut-être que Bicorp le fait, tu vois, mais je sais pas, c'est pas du tout la même chose.
Non, mais t'as raison. Alors, ça dépend de quoi on parle. Effectivement, Bicorp, ça traite du fait que tu accompagnes les gens, que tu les formes, que tu as une politique sociale et environnementale qui est extrêmement forte.
D'accord.
Et dans notre domaine, dès lors que tu as ça, tu pars du principe que le niveau d'engagement des personnes. Après, c'est vrai, effectivement, Bicorp ne traite pas du fait que tu as formé les gens à techniquement bien faire le métier.
Ouais.
C'est vrai que ça, nous, on le fait.
D'accord.
Et je sais pas s'il y a tant un ISO là-dessus que.
Non, mais il y en a peut-être pas, mais c'était juste pour savoir si c'était une possibilité, tu vois, genre. Je sais pas, comme les étoiles dans les hôtels ou ce genre de choses qui peut rassurer les clients au sens où on se dit bon bah il y a une nomenclature en fait sur les nettoyages. Eux ils sont classés bons, moins bons et très bons. Je sais pas, je me pose la question et de savoir si ça existe ou pas.
Malheureusement t'as pas ce truc là. Ce serait intéressant d'avoir un classement d'entreprise de nettoyage.
Non mais en tout cas de créer tu vois une sorte de nomenclature qui permet de parce que je le vois quand par exemple je le vois dans mon cas, si tu fais ton travail d'une certaine manière, bah t'as quelqu'un, tu vas chercher une norme ISO 9001, ou ça s'appelait comme ça à l'époque, et je pense que ça s'appelle toujours comme ça, qui dit, bon bah c'est bon, vous pouvez être garanti du fait que monsieur va prendre son pont élévateur pour faire comme ça, et va mettre la caisse comme ça, enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une manière de travailler qui rassure le client sur... un mode de fonctionnement. Voilà.
J'entends. C'est hyper intéressant. Écoute, faut que je me penche là-dessus. C'est une question qu'on m'a pas posée souvent. Mais comment tu garantis de la qualité? Nous, ce qu'on fait, on forme en interne. Après, il y a un prérequis, c'est que si tu formes pas à la qualité, t'as deux sujets qu'on travaille beaucoup chez Clinis, c'est la qualité réelle, c'est-à-dire bien faire le ménage, et la qualité perçue, c'est ce que le client perçoit de toi. Mm. C'est-à-dire que parfois, tu peux perdre un client chez qui tu bosses très bien, mais juste il te connaît pas, il sait pas que tu fais bien les choses, donc il t'attend. Enfin, tu vois, il y a aucun lien humain qui se crée.
D'accord.
Et on traite les deux. On forme évidemment à la qualité de la propreté avec du matériel, des produits et des techniques auxquelles nos agents sont formés. Et on forme aussi à la qualité de la relation humaine qui se crée avec le client. Et donc, d'où l'intérêt du travail en journée, c'est qu'une fois que l'office manager, responsable service généraux, responsable
service
connaît les personnes et voit le niveau d'engagement et le niveau de... fatalement, tu crées du lien. Et donc, c'est tout ça. Mais effectivement, je ne l'ai pas normalisé, normé.
Tu vois, c'est une question que je te pose en échangeant avec toi. Je me dis, bah tiens, moi, je serais intéressé de savoir... est-ce qu'il vaut mieux nettoyer une table avec tel produit? Est-ce qu'il faut le faire de gauche à droite ou de... Enfin, je sais pas. Nettoyer des étagères. Enfin, je me dis, bon, aujourd'hui, on est post-Covid où l'hygiène, malgré tout, a eu une espèce de... On a tous eu une obsession d'hygiène, tu vois, énorme. Je pense aussi aux crèches, tu vois, à tous ces endroits qui sont des nids à bactéries en permanence. Moi, ayant un enfant, je serais rassurée de me dire que entre chaque activité, parce que les pauvres, en général, elles n'ont pas le temps. Je me souviens dans les crèches post-Covid, elles avaient les enfants à garder avec souvent des problèmes de recrutement, plus le ménage à faire, plus les problèmes de Covid. Donc je me dis, bon, il y a peut-être un sujet sur les crèches. Hein, mais
pour le coup, en crèche, t'as l'impératif d'avoir une norme, tout comme dans les hôpitaux.
Ah bah voilà. D'accord.
Ce qui n'est pas forcément un gage de méga qualité non plus.
Non, parce qu'en plus, je suis d'accord. Oui, mais il y a un sujet, tu vois ce que je veux dire là-dessus. C'est vrai que
c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on avait fait une campagne de com en capitalisant sur le post-Covid en disant bah, vous vous rendez bien compte du coup de l'enjeu sanitaire, la propreté, c'est pas juste une commodité, c'est aussi, il y a un enjeu sinon sécuritaire, en tout cas, d'hygiène, de santé.
Parce que demain,
quoi.
Les pandémies vont se transmettre très facilement.
Ça a été. Le Covid est bien loin maintenant, tu te rends compte.
Ouais, mais c'est fou.
C'est
incroyable. Enfin, moi, je me souviens, je prenais mes courses avec des gants, quoi, à une époque. Je désinfectais les produits du supermarché, quoi.
Enfin,
on était tous complètement tarés, mais.
Premier confinement, était fou.
Ouais. Mais ou pas, parce que finalement, quand tu sais que tu vas être face à des pandémies qui vont se. Enfin, je pense qu'on aura un autre Covid d'une autre manière, tu vois.
J'espère pas, mais.
Non, mais.
Raison,
Il y en aura forcément. Donc, je pense que le sujet de l'hygiène aujourd'hui est lié à la santé, d'une certaine manière. Bon. je lance un pavé dans la
confirme que la date, il y a plus une amnésie qu'une tendance à l'intensification derrière t'as la crise qui passe par là, et du coup le cost-killing, il concerne directement la propreté, comme plein d'autres domaines évidemment.
Bon, en tout cas, j'ai retenu aussi que on ne notait pas les personnes chez toi, comme en Chine où on met des verts et des rouges sur des bonhommes, mais en tout cas on note Clini, on note l'entreprise.
Exactement, on note l'entreprise, on est tous salariés de Clini, et il est hors de question de noter les gens.
J'ai jamais réussi à faire ça. Noter les personnes, en fait, je trouve que c'est atroce.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
C'est vraiment la même philosophie que le like de s'auto, comment on appelle ça, aller chercher l'assentiment des autres, c'est un truc très très bizarre. Les grandes difficultés, c'est-à-dire, quand j'ai écouté une de tes interviews, je disais tout à l'heure que tu avais un franc-parler, parce qu'en 11 ans, tu as forcément vécu des caps. Quels ont été les plus grands caps que tu as réussi à traverser? Comment et pourquoi?
Écoute,
question vaste. Hein.
Y a beaucoup de caps, pour le coup, ça me ferait marrer de discuter avec moi il y a 10 ans. Parce que je me rends compte de pas mal de steps. C'est intéressant parce que j'accompagne des boîtes plus jeunes et je vois un peu certains sujets que j'ai pu aborder avec un niveau de stress très élevé à l'époque. Enfin, tu vois, c'est un peu le discours du vieux con qui regarde maintenant son passif avec un peu plus de flegme et de c'est l'avantage de l'expérience, on va dire. Mais les caps, ils sont nombreux. La plus grande force, je dirais, d'un entrepreneur jeune, c'est sa naïveté et sa volonté d'avancer. Effectivement, je pense que j'ai fait toutes les bêtises de l'entrepreneuriat possible à tous les niveaux, humains, financiers. Je suis passé par des caps perso, tu vois, de l'entrepreneur qui veut se densifier lui-même au travers de sa boîte, tu vois.
T'as combien d'associés, rappelle-moi?
Là, je suis seul maintenant.
T'es seul maintenant, oui, c'est ça. T'as eu des associés?
J'ai pas plusieurs dizaines d'associés, parce que j'ai levé des fonds,
des
associés opérationnels, j'en ai plus.
D'accord.
On s'est séparé avec mon ancien associé il y a 2 ans maintenant.
D'accord.
Et donc, bah, tu vois, ça fait partie des sujets sur la communication d'associés. La relation d'associés est un sujet fondamental.
T'as pris un coach après ou pas?
Ouais, alors j'en avais déjà un avant, mais moi uniquement. C'est peut-être un des problèmes. Mais en tout cas, la communication entre associés, la complémentarité entre des profils qui sont très différents, donc qui est potentiellement ultra bénéfique d'un point de vue business, parce qu'avoir deux prismes, deux visions du monde bien différents, c'est un set de skills très complémentaires, bah c'est génial. Sauf que ça fait souvent des personnes qui n'ont pas la même vision du monde et qui du coup ont du mal à communiquer, du mal à se valoriser, du mal à avancer ensemble, et c'est clairement un peu notre histoire. Et pour le coup, c'était un pote d'enfance, donc c'est un peu pénible, mais avec le recul, je me dis c'est totalement normal qu'on soit passé par là. C'est dommage qu'on n'ait pas eu les outils à l'époque pour gérer ce truc-là. On a commencé à les aborder, mais très tard dans notre relation, et le verre était déjà trop profond dans la pomme. Donc
vous n'aviez pas de pack d'actionnaires?
Si, non, mais pour le coup, la séparation, je dis pas que c'était la meilleure période de ma vie, parce que ça fait sur fond de Covid, moi je venais d'être papa, c'était pas le meilleur moment, mais au final, avec le recul, on l'a plutôt bien géré. Et quand je vois comment c'est géré parfois dans d'autres boîtes, ça peut vraiment amener. Enfin, tu vois, c'est comme les divorces, quoi. C'est jamais un moment cool, mais tu peux dans ce marasme-là le gérer de manière totalement différente. Parfois, tu pars au conflit sur 10 piges. Parfois, tu te mets d'accord et on se serre la main. On n'ira plus boire de bière ensemble, mais au moins, ça s'est fait en bonne intelligence. Et là, c'est un peu le cas. Donc, mais encore une fois, pareil, les sujets de recrutement, de management, global, là, moi, où, après, j'ai peut-être un biais parce que c'est là où j'adore progresser. Mais les sujets humains, c'est ce qui me passionne, mais c'est ce qui me terrifie aussi, quoi. C'est les endroits où je me dis, si tu gères bien ça, t'es une machine de guerre en entrepreneuriat, parce que le reste, cool, quoi.
C'est sûr. Enfin, si t'es bien entouré aussi, que t'es bien staffé sur des choses que tu maîtrises pas, type, je sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, je pense qu'un entrepreneur ne peut pas tout faire non plus. Enfin, c'est pas parce que t'es CEO de la boîte qu'il faut, je crois, au noyau dur, tu vois, au sens, t'es staffé en finance, t'es staffé en développement, enfin, relativement, même si tu restes le meilleur ambassadeur et le meilleur vendeur de ton entreprise. Mais c'est vrai que je crois beaucoup aux complémentarités sur des fondamentaux quand même. Donc,
totalement aligné.
Qu'est-ce que tu retiens justement sur les levées de fonds? C'est-à-dire que j'ai cru comprendre, et encore une fois, je veux pas redire te faire redire ce que tu as déjà dit, mais ce que j'ai trouvé intéressant quand tu parlais de levée de fonds, c'est ce que ça représente en termes de temps, en termes de conséquences, au sens où quand tu vas chercher de l'argent, bah, ça te...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Prend du temps humain, du temps de cerveau, du temps de l'énergie, ça te fait perdre du temps dans ta boîte au sens où tu ne vas pas manager, tu n'es pas là pour... t'es ailleurs. Et par ailleurs, ça te fait également perdre parfois un petit peu... pas la raison, mais un petit peu, parce que tu peux te retrouver très vite avec X milliers ou centaines de milliers, voire millions sur ton compte en banque. Et là, on t'oblige quasiment à... Enfin, je ne sais pas qui sont tes investisseurs, mais si tu as des fonds d'investissement, en général, on te demande de cramer, entre guillemets, cet argent.
Ouais.
Ou burn, en tout cas, le terme est comme ça. Enfin, ça s'appelle du burn, mais au sens où on te demande d'investir dans de la com, dans des trucs que tu ne faisais peut-être pas avant. Mmh. Avec le recul, justement, juste sur ce point-là, quels sont les grands enseignements que tu pourrais retirer ? Ou tirer, ouais, plutôt ?
Il faut que je compartimente et que je synthétise ce que je pourrais partir sur 5 heures sur ce sujet.
Bah, qui c'est pas grave, tu vas faire des conférences, c'est bien.
Mais le sujet, si je devais synthétiser le sujet de la levée de fonds, je pense que la levée de fonds déjà concerne un type de boîte qui a besoin d'investir à un moment donné pour craquer un sujet, que ce soit le développement d'un produit tech, que ce soit l'obtention d'un brevet spécifique. Bref, en tout cas, un moment où tu n'as pas d'alternative au fait d'avoir des financements pour craquer un sujet à un moment zéro qui te permet ensuite de scaler au sens littéral du terme, donc au sens mécanique, c'est-à-dire avec X, tu passes de 50 à 5000 clients ou 50 000 clients sans que les moyens à mettre en face soient linéaires. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, du coup, pour grossir, il faut que j'embauche des gens et globalement, mes dépenses sont à peu près linéarisées par rapport à part les dépenses de bureau, tu vois. Mais globalement, mes dépenses sont à peu près linéaires par rapport à ma capacité à croître. Et c'est valable dans plein de domaines, tu vois. Moi, j'accompagne pas mal de startups. Je vois des mecs ils montent un traiteur, ils lèvent des fonds, maintenant, la levée de fonds est devenue une sorte de, c'est même plus un outil, c'est devenu une fin en soi. Mmh. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant parce que le marché s'est retourné.
Il y a une explosion de bulles.
Ça a été vécu, je pense, comme un fast track vers l'enrichissement personnel. Et je le dis, j'ai vraiment fait partie de cette catégorie, parce que les gens ne connaissant pas les modèles des fonds, et notamment des fonds de VC dans leurs fondamentaux, donc la structure même de ce que c'est qu'un fonds, et puis il y a eu effectivement un peu de marketing autour, des jeux de séduction, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ne connaissant pas le modèle d'un fonds, beaucoup d'entrepreneurs pendant un moment se sont dit la levée de fonds est une fin en soi, ça me permet de me crédibiliser, tu vois, les montants levés effectivement crantent un truc en termes de réussite. Qui est totalement chimérique, hein, parce que c'est pas parce que tu as levé 30 millions que tu sauras les dépenser, les déployer et en faire 100. Mais en revanche, quand tu dînes avec tes potes, t'es le mec qui a levé 30 millions à la table, donc il y a un enjeu d'ego boost qui est colossal et non négligeable. Et clairement, ça, je trouve ça délétère. Maintenant, faut voir la levée de fonds pour ce que c'est-à-dire un outil. Mmh. Tu vois, c'est comme si demain tu me disais je lève 10 millions de dettes, bon, bah, très bien, mais qu'est-ce que t'en fais et comment tu vas les rembourser, tu vois. Et la levée de fonds, c'est ça, effectivement, les gens en face. Alors, t'as les BA qui sont de plus en plus professionnels, mais qui sont des gens non professionnels. Et après, tu as les fonds d'investissement, donc c'est le métier. Et quand ils te donnent de l'argent, c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pas pour tes oriser, c'est pas pour que tu les mettes sous ton matelas et en préparation de jeu. Effectivement, il faut burner, il faut que ce cash, il faut que ces euros investis en déploi, allez, à minima 3, mais que si enfin, tu
que
peux en faire 80, c'est mieux.
Quoi.
Voilà, et du coup, un dernier truc dont je parle aussi... parce que j'accompagne des startups et je vois bien qu'encore maintenant, il y a des gars qui ne comprennent pas trop. C'est que dans le modèle d'un fonds, notamment d'un fonds de VC, le fail est modélisé. C'est-à-dire qu'ils investissent dans 40 boîtes, il y en a 20 qui vont tomber, ils le savent. Mmh. Sauf que quand l'une des 20, c'est toi, et que toi, c'est toute ta vie, t'es pas très content. Et ça, c'est pas très vendu en amont, tu vois. C'est pas, on te l'annonce pas quand on va lever des fonds et dans le jeu de séduction de démarrage, c'est pas posé sur le papier, ça. Et donc, tu te retrouves avec des mecs qui burn, qui trouvent pas leur modèle, qui effectivement se disent, mais merde, en fait, c'est ma boîte et elle va se prendre un mur à pleine vitesse. Et là, t'as un désalignement qui arrive et en tout cas, moi, pour l'avoir vu, souvent, c'est un peu trop tard quand tu réalises le truc, tu vois. Et donc, ça, je trouve que c'est un peu, en tout cas, c'est pas ultra fair ou ultra cool, en tout cas.
C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des entrepreneurs, surtout, entrepreneuses, mais qui sont rompus à l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, ça les a... Moi, c'est ça que je trouve regrettable aussi dans l'histoire, c'est que ça a coupé les ailes de jeunes talents trop tôt, trop vite, pour les mauvaises raisons. Et ça, je trouve, je trouve que c'est regrettable et que c'est pas assez dit. Donc c'est pour ça que je suis entièrement aligné entre guillemets avec ce que tu dis, et je te remercie de le dire, parce que moi je me tue à le dire, mais quand je le répète, on m'écoute pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus impactant quand c'est un entrepreneur comme toi qui le dit, plutôt que moi, podcasteuse, malgré ma petite expérience. Les robots, je voulais te parler des robots, ouais. Parce qu'on parle de ça en ce moment.
Ouais.
Que malgré tout, j'étais tout à l'heure sur la route en train de me dire, je réfléchissais à notre interview et je me disais, mais attends, on nous parle d'intelligence artificielle en ce moment à pléthore, on nous parle de robotisation de certains métiers, on nous parle de... Pas que des métiers de service, plein de métiers potentiellement intellectuels aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, dans le secteur? Parce que je me dis, mais pourquoi demain, tu n'envoies pas un robot, toi, faire le ménage? Même si je sais que c'est toi, tu es d'abord social, mais peut-être qu'un robot pourrait se justifier sur tes 450 salariés. Tu y penses ou tu n'y penses pas du tout?
Alors, dire que tu n'y penses pas, ce serait vraiment faux. Parce que je regarde vachement ce qui se fait. Notamment, je ne sais pas si tu as suivi Elon Musk, là, qui a parlé de son truc ultra flippant d'humanoïde.
Oui, bien sûr.
La vérité, telle que je la connais à date, je fais un peu de veille, après, ce n'est pas mon obsession non plus, c'est que des robots qui font des métiers complexes et aléatoires, enfin, nettoyer un bureau, c'est à la fois systématique, parce que c'est toujours le même espace, mais tu as toujours des aléas, sans se gourer, ça n'existe pas à date. Je ne dis pas que ce ne sera pas une réalité dans un futur très proche, parce que quand tu vois ce qui se passe en ce moment au niveau techno, c'est tellement délirant que... Le seul endroit aujourd'hui où on utilise des robots, ou en tout cas, là, on est en phase de test chez Cligny à la marge, et où ça fonctionne plutôt pas mal, mais ça reste quand même un truc, c'est les aspirateurs. Tu sais, les aspirateurs, il y en a qui ont aujourd'hui atteint un certain niveau, et pour le coup, le temps de passage en entreprise dédié à l'aspiration, c'est 30%. Donc si tu arrives à faire ça la nuit par un robot, c'est cool. Sauf que le robot, il se prend les pieds dans le tapis, littéralement. Parfois, tu le retrouves bloqué dans un fil, parfois tu machin. Donc c'est pas non plus une science exacte. Ça peut apporter de la valeur. Mais
en complément, en fait.
Exactement. Ça, c'est un soutien, tu vois, comme ta voiture qui t'aide à te garer, comme tu vois, la robotisation et la techno en général, ça vient fluidifier des nœuds opérationnels, ça vient apporter de la valeur, ça vient. Mais c'est jamais. Enfin, tu vois, on aura toujours. En fait, moi, ce que j'aime bien dans l'idée de la robotisation, c'est que ça va permettre de mieux valoriser le métier de l'agent d'entretien, qui va du coup travailler conjointement avec le robot, qui va devenir un expert en robotique sur certains robots spécifiques, tu vois. Et du coup. T'as de la formation en amont, t'as une expertise liée aux services généraux en général qui peut s'accentuer. Aujourd'hui, sur l'aspiration, ça commence à être une vérité. Ça implique aussi que les bureaux, tu vois, si tu veux faire un bureau aspirateur, il faut structurer tous tes bureaux en fonction. Parce que tu peux pas avoir de câbles qui se baladent sur le sol, tu peux plus avoir de poubelles, tu peux plus. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut pas. Mais le bureau qui se lève, qui va nettoyer les sanitaires et l'intégralité du bureau avec les rampes de, tu vois, les escaliers, ça n'existe pas. Pour l'instant, ça n'existe pas et c'est pas dans un futur très proche.
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, j'aime pas parler de ce terme parce que tout le monde en parle, mais est-ce que tu as le sentiment de t'être relevé d'un échec, ou en tout cas est-ce que tu as le sentiment d'être tombé à un moment ou un autre et puis de t'être relevé, on va dire ça comme ça?
J'ai ce sentiment là de manière pléthorique, quoi. je sais même pas quand te dire. En fait, à chaque fois, maintenant c'est quasiment devenu une rengaine avec ma femme, dès que je lui dis que ça va bien, je prépare le quand ça ira moins bien. Et le seul truc que je dis, c'est un peu le système de. Tu vois, c'est le schéma que j'ai en tête, c'est une vis qui monte. Tu vois, c'est que je suis juste de plus en plus armé à gérer les merdes.
C'est ça.
Et en fait, ce qui me paraissait terrifiant il y a 5 ans, aujourd'hui me paraît assez aléatoire. Et puis les sujets Covid. Sujet d'associés et 2-3 autres petits soucis assez costauds que j'ai eu à gérer, on crantait tellement fort en termes de stress, d'angoisse, de projection à potentiellement la mort de ma boîte, enfin plein de trucs assez sombres qu'aujourd'hui tout me paraît relativement light.
T'es très entouré, c'est-à-dire que je crois comprendre dans le secteur des entrepreneurs, on va dire français, parisien, même si toi t'es à Saint-Ouen. mais bon, ça reste quand même pas très loin. Quels sont les grands groupes? En fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait des groupes d'entrepreneurs. Tu vois, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose? Tu vois, parce qu'on parle souvent des réseaux d'entrepreneurs.
Ouais.
Moi, je prends le truc avec un peu de distance où je me dis, y en a qui se valent clairement parce que tu rentres avec un problème, tu repars avec une solution. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui des réseaux dont tu fais partie, ou est-ce que Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça s'est structuré. Tu vois, tu étais entrepreneur il y a 30 ans et tu l'es maintenant. Aujourd'hui, tu es entouré. C'est-à-dire que tous ces moments de solitude que tu as pu traverser,
ouais,
ça a dû t'aider quand même, non? Parce que tu rencontres des gens, tu es en contact avec potentiellement des personnes qui ont les mêmes problèmes que toi ou les ont déjà vécues ou vont les vivre.
Alors, le sujet des réseaux entrepreneurs, pour moi, il est important parce que ça m'a énormément aidé. J'ai démarré par intégrer 50 Partners il y a 7 ans maintenant, purée, ça passe. Et là, j'ai commencé à discuter avec des pairs. Tu vois, avant, en tant qu'entrepreneur, effectivement, tu as des associés, tu as des employés, tu as des advisors, des board members. C'est souvent des gens qui sont partie prenante dans la boîte, donc qui ont un prisme par définition. Quand tu parles avec un mec qui a juste sa boîte, qui est en une sorte de pote, qui vit ce que tu vis et qui te fait un feedback brut et que toi tu te retrouves dans son feedback, t'as un côté cathartique qui est, bah, tu vois, tu respires, tu dis, bon, je suis pas tout seul dans ma. Et ça, le faire. À l'échelle, s'y rencontrer, tu vois. Donc, moi, je fais partie de deux. Donc, j'ai 50 Partners qui a été mon accélérateur pendant un temps, qui est toujours au capital de la boîte. Et je fais partie du Galion Project. Et depuis un peu plus, donc depuis 5 ans. Et récemment, j'ai intégré le Bootstrap Club.
Il se passe quoi dans ce Galion? Tout le monde en parle, mais il se passe quoi concrètement?
Bah, écoute, le Galion, c'est été créé par Agathe Vautier et Jean-Baptiste Rudel. Il y a plein d'entrepreneurs.
Il y a des critères pour y rentrer, non?
Ouais, il y a des critères qui sont basés sur la levée de fonds. Il faut avoir levé 3 millions et une certaine taille de boîte également. Mais ce que je retiens du Galion, enfin moi, là, j'ai découvert des choses comme le co-développement au Galion. Et donc, l'idée, c'était de prendre une respiration entre entrepreneurs pour se parler entre pairs des sujets entrepreneuriaux en général. Et en fait, le simple fait d'échanger, de dîner avec quelqu'un, de partager un moment et de faire du co-développement aussi. Tu vois, on faisait des trucs très pratiques. Tu te mets autour d'une table, tu poses un sujet et les gens te font un retour bienveillant de leur expérience sur un sujet connexe. Et de sentir ça, effectivement, ça te permet de mieux gérer la solitude d'entrepreneur. Est-ce que ça la balaye? Pas du tout. Moi, en parallèle, je me fais coacher à titre perso par des gens qui sont proches de la psychologie et autres pour apprendre à gérer la solitude, l'ego, la capacité à communiquer, pourquoi est-ce que je réfléchis ou je réagis comme ça dans telle ou telle situation de stress, tu vois. Donc c'est hyper important de bosser sur soi, hein, mais c'est aussi important d'ouvrir le champ des possibles et de discuter avec des gens et d'ouvrir tes chakras, quoi. Donc je trouve ça, moi en tout cas, ça m'aide beaucoup. Et on a fait les deux. J'ai fait la fête du Galion la semaine dernière. J'ai l'impression que, vu la solidarité que j'y retrouve, que ça plaît à pas mal de monde et que ça répond à un besoin.
Ouais. En termes de projection, il y a des choses dont tu peux nous parler sur les années à venir. Qu'est-ce que tu envisages de faire?
Écoute, je me suis posé plein de questions. Comme je dis, à une époque, j'étais vraiment l'entrepreneur que je te décris comme étant l'entrepreneur jeune, c'est-à-dire lever des fonds, grossir, exiter. La sortie pour moi, c'était le Graal.
C'est ça, vendre ton entreprise, c'est
ça? Exactement, vendre l'entreprise à un grand groupe, tu sais,
faire partie des millions.
Exactement, coffrer un maximum et aller aux soirées d'entrepreneurs en étant le mec qui a vendu, c'était mon Graal. Et je me suis mis à réfléchir au sujet. J'ai modélisé parce que j'ai vécu une possibilité de cession qui n'est pas allée au bout. Et du coup, je me suis projeté à ce moment-là et je me suis rendu compte, là, c'est très personnel, que j'avais travaillé à l'époque, ça faisait un peu moins de 10 ans sur la boîte, que j'y retrouvais plein de trucs en perso, que je voulais monter une boîte dans l'entrepreneuriat à impact, que dans l'impact, c'est le social qui m'intéresse. Et globalement, si je remontais une boîte, j'allais remonter un Clinibis.
Donc
au final, assez peu d'intérêt à le faire. Et donc, j'ai plus travaillé sur ma mission, sur ce que je voulais vivre au sein de ma boîte, avec qui j'avais envie de le vivre et comment j'avais envie d'avancer. Et aujourd'hui, j'en suis au stade où mon objectif perso, c'est de me sentir bien dans ma boîte, de bosser avec des gens et de m'entourer de gens. Tu parlais de l'impératif d'avoir un noyau dur et d'avoir des gens avec lesquels on a envie de bosser. Et ça n'a pas toujours été le cas et maintenant j'arrive le matin au bureau avec le smile. Tous les gens que je croise sont des gens avec qui j'ai envie d'aller bouffer au déj. Et la boîte va bien, on est rentable, je suis plus dépendant de fonds. Il y a toujours des galères, il y a toujours des moments assez chauds. Là, bon, on est encore en, donc chiffre d'affaires, je peux le donner. On a fait un peu plus de 9 millions l'an dernier, on va en faire à peu près 11 cette année. C'est une boîte qui grossit mais qui reste une petite PME. C'est tout mon patrimoine perso, tu vois. Donc il y a quand même encore plein de biais que j'ai en tant qu'entrepreneur qui crante une forme de stress, tu vois, parce que si demain la boîte coule, moi je perds tout. Mais c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc, ça
parce que c'est pas la seule manière de vivre l'aventure,
ouais,
finalement.
C'est clair. Tu vois, et puis toujours, je ne vais pas citer Schopenhauer, mais entre souffrance et ennui, j'ai toujours choisi souffrance.
Mon père, il disait, je préfère les ennuis à l'ennui, tu vois.
Ouais, exact. Maintenant, je la gère mieux.
Tu
donc,
la gères, ouais.
Ouais. Je préfère ça. Et donc, je suis très bien dans ma boîte. Et l'avenir, on a un plan qui nous met à plus de 30 millions de chiffre d'affaires en 2030, avec, et surtout ce que je veux démontrer, c'est que dans notre secteur, avec un enjeu social fort et avec un historique un peu délétère sur l'enjeu social, qu'on peut faire une croissance, avoir une belle boîte rentable et qui fait les choses correctement au niveau de l'humain et des parties prenantes.
L'étranger, non ? Tu t'envisages pas de partir ? Non.
Le marché est tellement vaste.
T'es
et puis
à Reims aussi, vous êtes implanté à Reims.
Alors, on a arrêté Reins récemment.
Ah bon ?
C'était un de mes petits fails de l'année. Non.
Bon,
tu regardes, c'est tellement récent que tu pouvais pas savoir, mais c'était un de mes petits fails de 2022-2023.
Pourquoi t'es allé à Reims ? Pourquoi Reins ?
Opportunité, on a suivi un client.
D'accord.
Et du coup, la distance est quand même assez complexe à gérer. Et puis aujourd'hui, du coup, ça nous a permis de challenger nos outils qu'on pensait être optimaux pour gérer du distanciel. On a vu qu'ils n'étaient pas aussi optimaux qu'on le pensait. Donc, petit retour sur Terre. Là, on est en train de construire pour pouvoir ouvrir des villes. Mais on avait quelques paliers à franchir qu'on n'avait pas en tête. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail de ça. Mais...
Il y a un paramètre technologique quand même dans ton entreprise. On n'en a pas du tout parlé, je suis désolée. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même... tu as réussi à la rendre 2.0, cette propreté, d'une certaine manière.
Ouais, avec encore une fois beaucoup d'humilité, parce que le 2.0... dans la propreté, c'est qu'on part de loin. Il y a assez peu de RP. Le niveau techno est très très bas. Et nous, on pensait avoir franchi, tu vois, on a levé 3 millions en 2018 pour investir là-dedans, et on pensait avoir franchi des caps. Et en fait, en se confrontant au réel, on s'est pris une petite gifle. Et donc là, on a du coup capitalisé dessus. On a retravaillé notre roadmap. Et là, on est en train d'ici pour 2024 de commencer à ouvrir. Donc l'idée, c'est potentiellement après d'ouvrir des villes et de commencer à regarder, à racheter des concurrents, parce qu'on est sur un domaine qui se prête à la croissance externe. Donc c'est en tout cas ce que j'explore. Et puis après, en termes d'entrepreneuriel, c'est aussi un truc nouveau et qui, moi, m'excite pas mal d'apprendre à racheter des boîtes, piloter à distance. Mais pour ça, il faut être très structuré niveau data. Il faut avoir une culture financière qui est encore plus importante que celle qu'on avait il y a un an, mais du coup qu'on commence à avoir aujourd'hui. Et ça passe par aussi des équipes et une structuration qui est un poil différente. Mais voilà, c'est l'avenir de la boîte, en tout cas, c'est ça, c'est ouvrir des villes. Mais rester en France, effectivement, l'étranger, c'est encore un des focus.
D'accord. Bicorp, rapidement, donc c'est une labellisation qui concrètement aide aujourd'hui, enfin fédère plusieurs entreprises qui s'engagent, arrête-moi si je me trompe, mais sur des objectifs sociétaux, économiques aussi, et environnementaux, c'est ça à peu près ?
Oui, exactement. Bicorp, ça traite 5 domaines, globalement l'ensemble des parties prenantes dans une entreprise. C'est un label qui vient tamponner le fait que tu fais les choses correctement à plein de niveaux, au niveau de la gouvernance, au niveau des clients, au niveau de tes collaborateurs,
d'accord,
de l'environnement. C'est le label le plus exigeant au monde aujourd'hui. Ça, pour le coup, je soumets cette affirmation à contradiction, mais globalement, tu n'as que 5000 boîtes aujourd'hui dans le monde qui sont labellisées Bicorp. Tu en as un peu moins de 300, je crois, en France. C'est un processus qui est très long. Nous, on a décidé d'aller vers ce label-là parce qu'on se prétendait à l'oral, en pitch, être les plus engagés sur le plan social et environnemental. Et les gens nous demandaient d'en justifier, tu vois. Et donc, tu essaies de mettre en place un argumentaire. Et un jour, on s'est dit, il nous faut un label, il nous faut quelque chose d'externe qui vienne tamponner ça. On a choisi Bicorp. On pensait être bon. On s'est confronté à Bicorp. On s'est pris, pareil, c'est encore une petite gifle. Il faut 80 points pour être Bicorp. On pensait être bon et être à 60, 70. On a fait le premier BIA à 27 points. Et donc, depuis 2019, on travaille. Et là, maintenant, on est à 100 et quelques. C'est un travail de fou. Et du coup, c'est à la fois une validation. Le problème en France, c'est que le label n'est pas encore méga connu. Mm-hmm. Tu parlais d'ISO, c'est beaucoup plus crédible aujourd'hui. Mm-hmm. Tu as des labels comme Ecovadis, comme Lucie, qui sont un peu plus connus en France. Mais Bicorp commence à avoir le vent en poupe. Et en tout cas, c'est vraiment très, très structurant. C'est un chemin hyper intéressant. Et puis, c'est une communauté aussi. Ça, c'est quand même intéressant aussi.
Bah oui, bien sûr. L'avenir des bureaux, alors on n'en a pas énormément, enfin on en a beaucoup beaucoup parlé ces derniers temps, où beaucoup de gens pensaient que c'était la fin des bureaux, mais finalement pas tant que ça. Toi, ton avis, c'est quoi ? C'est que c'est pas la fin du bureau, c'est une nouvelle manière de bosser, enfin c'est à peu près ça qu'on entend partout, mais t'as pas d'autre avis sur la question ?
Je t'avoue qu'en plein cœur dans l'entre-deux, premier confinement, ça a vraiment été un sujet. Enfin,
tous mes investisseurs
m'ont envoyé des messages. Ouais. Alors, tu penses quoi ? Est-ce que tu... C'était à l'époque où je sais pas, c'était Total ou je sais plus qui avait fermé la moitié de leur bureau.
Là, t'as vu la fin de la boîte quand même.
Ouais, ouais, je me suis dit merde. C'est, si tout le monde est en home office, effectivement, ça va devenir relou. Et puis en fait, t'as les gens qui étaient en home office qui en fait sont revenus au bureau en disant je peux plus. Je peux plus avoir mes gosses dans les pattes toute la journée. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que disons que le marché s'est contracté de peut-être 5%, tu vois. Que les bureaux sont devenus un autre espace, plutôt un espace de vie avec des shifts. C'est qu'il y a, tu vois, là, je pense que la moyenne, c'est à peu près 2 jours à la maison, 3 jours au bureau. Ça reste 3 jours au bureau, mais et tu gardes des espaces qui sont des espaces où tu travailles mieux, travailles différemment, plus des lieux de vie. Mais au final, je crois pas du tout que c'est la fin du bureau. Et je pense que humainement, on a besoin aussi de compartimenter. Que bosser de chez soi, c'est quand même super compliqué H24. Enfin, en tout cas, ça correspond pas à tous les mindsets. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas tellement de problématiques.
Alexandre, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions.
Ouais.
Est-ce que tu aurais un coup de cœur et un coup de gueule à nous donner ? Alors, coup de cœur, a priori, tu lis. Tu fais partie de ces entrepreneurs qui lisent et qui s'intéressent à la littérature ou à la philosophie. Un coup de cœur, ça peut être un livre, si tu as le temps. Malheureusement, je pense que tu n'as pas forcément énormément de temps pour lire, mais... Même ça peut être un coup de cœur pas forcément récent, mais quelque chose qui a retenu ton attention, une série, un film, peu importe.
Ouais.
Et un coup de gueule, ça porte bien son nom, c'est un truc qui t'énerve.
Ouais, alors coup de cœur, ouais, effectivement, je lis beaucoup. Enfin, je lis pas mal plutôt, je dois lire 2 livres par mois, tu vois. Enfin, c'est pas beaucoup d'ailleurs, mais c'est 2-3 livres
par
mois.
C'est pas mal, hein.
Je jette ça là parce que c'est pas du tout novateur comme truc. Effectivement, au-delà de la philosophie que j'adore lire et qui me fait vachement de bien, je suis tombé amoureux de Stephen King. Mais je connaissais pas. Je suis fan de fiction et j'avais vu des films tirés de ses œuvres et tout, mais je connaissais pas l'écrivain j'invite toute personne
tu
qui
lis en anglais ou tu lis en français?
En français. Ouais. Pour l'instant, je lis en français. Mais je me rendais pas compte de la... Enfin, en tout cas, moi, je le considère vraiment comme un sacré génie en termes de storytelling. C'est waouh. Wow. C'est impressionnant de voir à quel point les mecs, au bout de 10 pages, t'es
cranté dans ça. Mais tu vois, je suis ravie que tu me donnes de la fiction un peu, ça change.
Ouais.
Parce qu'on parle beaucoup de littérature contemporaine, du genre développement personnel, comment développer son leadership, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et je te cache pas que je suis ravie que tu nommes un peu de fiction parce que je crois que ça aide aussi les gens à s'évader.
Ouais.
Ok, donc Stephen King. Ouais. Et en termes de coup de gueule, est-ce que t'en as un? T'es pas obligé d'en avoir un. Il y a des gens qui n'ont pas de coup de gueule.
Ouais, non, j'ai rarement des coups de gueule en vrai parce que, en fait, j'ai construit mon cerveau pour arrêter de m'énerver.
Tu m'expliqueras donc, comment on fait, s'il te plaît.
Non, mais je le fais encore, hein, mais j'essaie vraiment de lutter contre ça parce que la colère.
Non, mais un truc qui t'agace, tu vois. Enfin,
ouais, bah, tu vois, on a parlé tout à l'heure de la sacralisation des levées de fonds, ça fait partie des trucs qui m'agacent. Et après, alors que je l'ai beaucoup fait, mais l'injonction au développement personnel avec toutes les sortes de normes, enfin en tout cas le principe que le champ des possibles est toujours vaste pour tout le monde, que tout est possible, et du coup le fait de s'affranchir de toute forme de normes, de contraintes et autres, je trouve que c'est assez délétère et je me demande dans quelle mesure c'est pas destructeur pour certaines jeunes générations.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut un minimum de cadre et ouais, je trouve que parfois ce que je vois en ligne m'embête un peu. Voilà.
Je te rejoins sur ce point complètement. Alexandre, un grand merci pour notre échange, c'était passionnant. J'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, on est pris par le temps. Je te souhaite une superbe route, longue vie à Cligny. Et puis, peut-être à bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci. Bye bye.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.